Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Dans mon métier de photographe voyageur, j'ai l'opportunité de rencontrer des parcours de vie incroyables et fascinants et inspirants. Là, je me retrouve dans un festival, le festival du Grand Bivouac à Albertville, un lieu riche de rencontres. Et je me retrouve en présence de Geoffroy Delorme, alias l'homme chevreuil. Une aventure homme-animal extraordinaire, où l'histoire se passe dans une forêt de Normandie. Geoffroy Delorme n'a pas encore 20 ans quand il rencontre un jeune brocard qui va changer sa vie et lui donne l'envie de s'installer en forêt pour vivre en contact avec des chevreuils. Cette immersion dans le sauvage va durer quasiment 10 ans. Geoffroy apprend à vivre seul dans la forêt sans tente ni abri, ni même sac de couchage. Pour survivre, il suit l'exemple des chevreuils. Il s'adapte à leur mode de vie, apprend à manger comme eux, à dormir comme eux, et acquiert une connaissance unique de cet animal. Geoffroy a publié un bouquin, L'homme chevreuil. Je lui donne, dans cette émission radio, la parole. Allons rencontrer l'homme chevreuil. Geoffroy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu t'en es retrouvé à vivre cette immersion dans le sauvage qui a duré, je crois, 7 années?
Oui, alors en fait, j'ai vécu isolé socialement quand j'étais gamin, et donc je ne suis jamais allé à l'école. Enfin, si, une année, c'est tout. Et jusqu'à mes 19 ans, j'ai étudié par correspondance. J'avais ni copain, ni copine, pas d'animaux domestiques, pas de sortie scolaire. Donc la vie normale que les autres enfants ont eue, moi, je ne l'ai pas eue. Et à 19 ans, j'ai décidé d'aller découvrir ce qui se faisait ailleurs, notamment en face de chez moi. La maison a été construite en lisière de forêt. Et j'ai décidé de partir vivre juste en face, pas très loin, pour voir comment ça se passait. Et je me suis créé un territoire sur lequel je pouvais trouver de la nourriture végétale en quantité, en qualité. Et j'ai réussi à me fondre dans le décor forestier jusqu'à devenir ami avec des chevreuils.
Ça, c'est complètement incroyable. On est en France. Tu vis cette expérience d'immersion dans une forêt française. Tu dis jusqu'à 19 ans, tu étais donc non scolarisé. C'était un choix de tes parents, ça, de te déscolariser ou de faire du non-sco?
Oui, c'était un choix que j'acceptais au début, et puis je me suis rendu compte que, en fin de compte, c'était pas trop mon truc. Je suis pas quelqu'un qui aime forcément l'école, mais à ce point-là, au point de m'en enlever, peut-être pas. Donc j'ai pas bien compris ce choix. Je peux même pas l'expliquer. La seule chose que je peux expliquer, c'est le ressenti que j'avais quand j'étais gamin, de partir absolument dehors. C'était vital pour moi. Je voyais les animaux qui étaient dehors, comme les petits rouges-gorges, les pinsons. Et pour moi, c'était frustrant. Je me disais, mais quelle chance ils ont, eux, d'être libres, et pas moi.
Mais toi, tu l'étais quelque part aussi. Enfin, j'imagine que tu étais en lisière de forêt, comme tu m'expliques. Quand tu vas pas à l'école, tu as plein de temps libre. Donc, enfant, la nature est un terrain de jeu énorme, sans limite.
Non, j'étais cantonné au jardin. Les sorties nocturnes se sont faites quelques fois à partir de l'âge de 10-12 ans, mais un petit peu en fugue nocturne pour aller voir ce qui se passait dans la forêt. J'étais cantonné quand même à un jardin. J'ai étudié par correspondance quand même, hein, j'avais des obligations, mais j'étais pas libre, ni autonome d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et la forêt était certainement la seule à pouvoir me l'offrir.
Ok, donc tes parents ne te laissaient pas sortir du territoire jardin.
Exactement, j'avais un territoire ultra limité. Quand j'ai découvert la forêt, en revanche, j'ai découvert que mon territoire n'était pas forcément plus grand, mais il y avait une espèce de partenariat qui se formait avec les autres espèces animales. Et les chevreuils ont été des guides, un petit peu pour moi, où l'amitié entre eux, notamment avec le premier chevreuil que j'ai rencontré, que j'ai appelé Daguet, qui m'a montré comment sélectionner ma nourriture. Un autre chevreuil, Six Pointes, qui m'a montré comment créer mon territoire. J'ai lié d'amitié aussi avec une petite chevrette, qui sont en fait les femelles, hein, des chevreuils, qui elle m'a montré le côté très nourricier, très protecteur de la nature. Et puis ensuite j'ai rencontré Chevy, qui est devenu mon meilleur ami, et avec lequel j'ai pu avoir une étape d'évolution de ma conscience, en fait. Chaque chevreuil que j'ai rencontré m'a fait évoluer différemment et m'a fait grandir dans ma conscience.
Ok, donc auditeur, on va essayer de décrypter tout ça. Donc là, j'ai avec moi Geoffroy qui a passé plusieurs années seul, c'est ça, dans un territoire que tu as toi-même choisi. Mais comment t'es venu cette idée un peu folle et comment ça s'est passé? Tu as dit à tes parents, bon bah ça y est, je pars vivre seul dans la forêt pendant 7 ans?
Non, ça s'est fait très progressivement. J'ai commencé à aller en forêt, j'ai commencé à découvrir cet endroit-là. Et je revenais souvent à la maison pour pouvoir découvrir dans les livres les plantes qui étaient comestibles, celles qui ne l'étaient pas, comment faire du brêlage pour pouvoir faire des bonnes cabanes bien, bien solides, des abris, comment se débrouiller en fait avec des techniques de base. Et c'était un choix de ma part, que ce soit très progressif, mais qui n'a pas forcément été compris de la part de mon entourage. C'est quelque chose qui peut paraître un petit peu étrange, mais il y a des raisons beaucoup plus profondes que je pourrais pas expliquer, parce que ça reste du domaine familial. Dans toutes les familles il y a des conflits, mais je n'ai pas pu accepter une certaine partie de ces règles ou de ces principes là en tout cas, et la forêt était plus une délivrance pour moi.
Mais c'est pas suite à une lecture, je sais pas, je pense à Henri Thoreau-Walden, vivre dans la forêt, ou à des stages de survie, ou au Copain des Bois, peut-être que t'avais le bouquin Copain des Bois. Non, c'est vraiment toi, t'avais cette envie de retourner dans la nature, ou d'y aller, et de la comprendre, et d'y vivre.
Alors Copain des Bois, je l'avais. Hein. C'est indispensable quand on est gamin, si on n'a pas Copain des Bois. Après, j'avais beaucoup de lectures, hein. je lisais Nicolas Vanier, je lisais Jane Goodall. L'éthologie m'intéressait beaucoup, la manière de partir aussi dans le froid, comme Nicolas Vanier pouvait le faire, où il disait voilà, je dors directement sur la neige et j'ai pas froid. Bon, voilà, ça fascine, on se dit chez moi en Normandie il neige pas, ça doit être du gâteau quoi. Bon, ça l'est pas, hein. C'est même pas de la tarte. Il y a beaucoup de lectures qui me permettaient de comprendre, mais de là à me donner l'envie d'y aller, non, c'était plutôt cette espèce d'envie, de liberté qui était plus forte que moi. J'avais dans le cœur quelque chose qui était peut-être incontrôlable et qui m'a poussé à partir directement dans la forêt. Et quand j'ai rencontré les chevreuils, ça a été démultiplié.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Avant de parler de la rencontre avec les chevreuils, donc tu disais que ça s'est fait de manière assez progressive, où tu retournais régulièrement chez toi pour faire un peu de recherche sur quelles sont les plantes comestibles, comment pour pouvoir construire tes cabanes. Donc comment, voilà, parle-moi de cette transition, combien de temps tu as mis à vraiment te rapprocher de l'animal?
Alors au début, on passe un petit après-midi, puis on revient, on passe la nuit chez soi, hein, bien au chaud.
Avec l'envie de faire des photos aussi, hein. Je crois que tu photographes animalier à la base. Il y avait quand même une intention qui avait été posée autre que de rencontrer des chevreuils.
Oui, en fait, la photographie, c'était la bonne excuse pour partir dehors. Parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de parents qui vont nous laisser partir toute la journée dehors dans la forêt. La photographie était une bonne excuse pour dire, je vais photographier des plantes ou des arbres ou des animaux au cas où.
Et là, tu as 19 ans.
Et là, j'ai 19 ans. Et la transition s'est faite très progressivement parce que je suis parti une journée, puis ensuite je passais toujours mes nuits à la maison, puis je suis parti une journée et puis j'ai passé la nuit dans la forêt. Et ensuite 3 nuits, 4 nuits dans la forêt, et puis au bout d'une semaine ou deux, là on se rend compte qu'il y a personne qui vous cherche de toute façon parce que tout le monde se fiche un petit peu de vous. Et là vous vous rendez compte que vous êtes plus fait pour vivre dehors qu'avec la civilisation que je ne connaissais pas. Puisque de toute manière la civilisation, comme je ne l'avais pas connue, elle me faisait peur. Donc le choix était très vite fait. Hein. On va vers ce qui nous fait le moins peur. Même si on se rend compte à la fin que la forêt était peut-être un petit peu plus hostile que la civilisation. Mais voilà, je comprends tout à fait parfois des jeunes qui pourraient vivre en plein cœur de Paris ou en plein cœur de Lyon, paumés qui finissent dans la rue. Ça aurait pu être une histoire un peu comme ça. Moi, j'ai fait un autre choix, de l'autonomie, de la suffisance alimentaire, de la suffisance de la vie tout simplement. Puis quand on est entouré de chevreuils, obligatoirement, ça comble encore plus le cœur.
des relations sociales avec les animaux sauvages. C'est intéressant parce que tu te retrouves seul sans parler à personne pendant un an.
Oui, mais ça me manquait pas parce que de toute façon je parlais déjà quasiment à personne avant. Donc c'est quelque chose qui ne m'a pas manqué. J'ai toujours même pas besoin aujourd'hui de parler absolument à un humain. Je peux très bien rester un mois, deux mois sans parler à personne, ça me gêne pas. J'ai pas eu cette éducation là. Donc c'est quelque chose qui ne m'apparaît pas essentiel.
Tu te retrouves dans la forêt, donc on parlera un peu plus tard de ta rencontre avec les animaux, notamment les chevreuils qui apparemment ont une place prépondérante, très importante dans ton aventure. J'imagine que dans une forêt, quand tu y habites comme ça, tu es connu. Les gens savent qu'il y a un mec avec une chemise à carreaux qui vit quelque part dans les bois.
J'avais pas de chemise à carreaux à l'époque, j'avais que des pulls en laine. Mais non, je fuyais le monde humain. Quand il y avait quelqu'un qui apparaissait sur un chemin, je remontais dans les parcelles de forêt. Ce qui a d'ailleurs engendré un peu plus facilement mon acclimatation avec les chevreuils, parce que eux se posaient des questions sur ma présence, et je suis tombé plusieurs fois sur des chevreuils qui étaient aussi sur le bord du chemin et qui remontaient en même temps que moi, et en fait on fuyait le même danger. Donc ensuite, quand on se trouve des points communs, obligatoirement on a plus de facilité à devenir amis, et c'est un animal qui est extrêmement curieux. Donc j'avais pas envie de parler à personne de toute façon. Un an, c'est pas très long, en fait.
C'est pas très long, mais t'as les saisons.
Il y a les saisons, mais c'est vrai que le printemps et l'automne sont plus durs que l'hiver et l'été. L'hiver, les températures sont constantes. Donc il y a moins de difficultés pour le corps à accepter qu'il fait froid. Alors que là, on est quand même avec une bonne température. Il fait bon, il doit y avoir peut-être 17 degrés ou 20 degrés. Et puis ce soir à 17h30, tac, ça rechute et on retombe à 10 degrés. Et puis ensuite on va aller peut-être à 2 ou 3 degrés dans la nuit. Donc pour le corps, c'est un vrai choc. Et là, c'est dur de résister. Et c'est là qu'en fait on arrive à se découvrir quelqu'un d'autre, en fait. On est plus résistant. On est quelqu'un qui fait partie du paysage. On n'est plus dans l'écologie environnementale où l'homme apparaît comme étant le conquérant dans la nature. On est dans une écologie profonde où on n'est qu'un des maillons de cette chaîne. Et puis quand on est entouré de chevreuils et puis qu'on voit que voilà, c'est quand même un petit animal qui fait 20 kilos, il est tout frêle, tout petit. Et quand il gèle, on se dit voilà, j'ai pas le droit de me plaindre, je suis quand même plus gros, j'ai plus de réserves. Bon, même si j'ai à peu près le même problème que les chevreuils, question taille et question morphologie, hein, je suis maigre. Mais on a que des points communs. On se découvre aussi en tant que cueilleur. On est toujours au même endroit, au même moment, en train de manger la même chose. Et ça force la relation.
Tu me fais prendre conscience à quel point l'homme peut être adapté à son environnement et à quel point aujourd'hui on vit dans une civilisation complètement hors sol, où on s'est éloigné, déconnecté totalement de cet essentiel. Tu mets quasi n'importe qui là dans la forêt derrière nous. Moi, je tiens que 4 jours.
Oui, c'est un peu le même principe que la permaculture et, comme tu dis, l'élevage hors sol. On a des gens aujourd'hui qui croient au conventionnel et d'autres qui croient à la permaculture. Moi, j'ai fait une expérience de vie qui était 100% ancrée dans la terre. C'est pas une histoire de revenir en arrière. On revient pas Cro-Magnon ou Néandertal. On a quand même des vêtements sur nous. C'est juste que le relationnel est totalement différent. On n'est plus dans on est dans l'écologie corporelle, en fait. On arrive à un point où on va aller dans une immersion, dans un milieu qui va nous apporter des nouvelles sensations, qui d'un coup va nous changer. On va devenir un immerseur de conscience, parce que la conscience va d'un coup se transformer. On va finir par découvrir des nouvelles pensées, un nouveau mode d'action, des nouveaux modes de création, on s'adapte. Et puis ensuite, on finit par rentrer dans l'acceptation de ce qui nous arrive. On n'est plus dans la lutte, on est dans l'acceptation. S'il pleut, ben voilà, on fait avec. Après, voilà, j'avais quand même différentes couches de pull avec lesquelles je pouvais dormir dans la journée sans avoir froid, même si on grelotte toujours. Même si on a toujours faim, même si on a toujours froid, il n'y a pas que des bons moments. On est toujours dans trois quarts de galère, mais le seul quart qui est bien, c'est justement cette méditation qu'on a réussi à faire le matin, où voilà, on a passé la nuit dans un froid total, avec une humidité, un brouillard, et là, les premiers rayons du soleil qui chauffent le corps, et on va se focaliser là-dessus, on se sent bien, et là, le garder, on va même le développer pour le garder toute la journée, puis ça fait un petit peu l'espoir de toute la journée. Mais on n'est pas dans une lutte. On est content de cueillir, on mange quand on a faim, on dort quand on est fatigué. Je suis parti pour ne pas penser. C'était pas une histoire de faire du militantisme ou de voir de quoi j'étais capable. C'est je ne voulais pas avoir, je voulais pas être, je voulais pas penser tout simplement. Juste profiter de l'instant qui m'était offert, puis sans réfléchir ni au lendemain ni à mon passé.
Mais j'ai l'impression que par essence, l'homme est quelqu'un de relativement paresseux et on va vers le confort, vers la simplicité, vers la facilité. Là tu l'as dit, c'est quand même trois quarts de galère pour un quart de plaisir quand le soleil apparaît le matin et réchauffe un peu la surface de ta peau. Pourquoi ne pas avoir cassé cette immersion dans le sauvage pour te rapprocher de la civilisation et puis mener une vie plus normée ?
C'est plutôt à cause des chevreuils. C'est que quand on les rencontre, ils ont un mode de vie, ils ont une espèce d'amitié qui est tellement forte, ça devient vite une drogue en fait. On s'attache à eux, y a quelque chose de très profond en fait. Et ils attendent rien, on est dans le partenariat de vie, on n'est pas dans la compétition. Ils m'ont fait découvrir une société très horizontale où chacun a son cercle et le cercle de chacun va croiser le cercle d'un autre, mais sans jamais monter sur le cercle de l'autre.
Mais en fait, là, tu me racontes un peu l'histoire de Mowgli, quoi, qui se fait adopter par les animaux de la jungle. Donc toi, tu t'es fait adopter par des chevreuils. Là, tu es en train de me dire que tu as réussi à les approcher, presque à les domestiquer, ou en tout cas à créer un lien entre eux et toi.
Alors en fait, c'est eux qui m'ont apprivoisé, pas moi. Moi, j'avais d'autres choses à faire à la base que de devenir copain avec des chevreuils. Et puis, y a surtout le fait que leur curiosité est plus grande que la nôtre, en fait. Eux, ils connaissent parfaitement leur territoire, ils n'en ont rien à faire de savoir comment faire pour se protéger du froid, de la pluie, comment faire pour se protéger de la faim. Ça, ils le savent. Donc, ils n'ont qu'une seule chose à penser, c'est découvrir ce qui est autour d'eux. Et moi, j'étais la curiosité du coin. Après, voilà, j'ai pas été élevé par les chevreuils, j'avais mes propres connaissances. Je peux pas copier tout ce qu'ils font. Mowgli a été élevé par les animaux de la forêt, mais moi, non. Moi, je suis parti, j'étais déjà adulte. Donc y a la différence entre lui et moi, c'est surtout que voilà, y avait une espèce d'harmonie qui s'est créée parce qu'on est face à soi-même.
Mais j'ai du mal à concevoir qu'un chevreuil se rapproche de l'humain alors qu'il a tendance à le fuir.
Oui, parce qu'en fait, ça vient aussi beaucoup de notre méconnaissance de la nature et de la forêt. Les chevreuils font la différence entre chaque type d'humain qui circule dans la forêt. On a le vététiste qui regarde toujours devant, droit devant lui, il regarde ni à droite ni à gauche, donc on peut continuer à manger sans bouger. Il y a les promeneurs qui cherchent, il y a les cueilleurs de champignons, il y a les chasseurs qui sont dangereux, il y a les bûcherons qui sont intéressants parce que quand ils coupent les arbres, les bourgeons des arbres tombent au sol, donc on peut aller les manger. Chaque humain est bien catégorié. Et il y avait moi, l'humain hors norme pour eux, qui disait mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et ça a certainement suscité une plus grande curiosité de leur part. Et c'est ce qui a ensuite créé nos liens affectifs assez forts.
Mais tu pouvais les approcher, les toucher ?
Ah oui, il n'y avait aucune limite de distance. J'ai une vidéo où on voit Chevy qui vient me voir et qui me relèche parce qu'il m'aime bien. Tous les animaux peuvent le faire. On peut le faire d'ailleurs avec tous les animaux. Ce qui est formidable d'ailleurs, aucun animal sur Terre, en dehors de l'homme, n'est capable de créer un lien d'amitié avec tous les autres animaux sauvages. On ne voit pas un écureuil avec un chevreuil, on ne voit pas un sanglier copain avec un blaireau, mais on voit des humains copains avec des chiens, des humains copains avec des loups, des humains copains avec des chevreuils maintenant, avec des ours, avec pas mal d'animaux. Le seul truc un peu différent dans mon histoire, c'est que moi c'était avec une proie, pas avec un prédateur. Beaucoup d'humains ont une tendance à se référer à un prédateur parce que c'est peut-être très sympa psychologiquement de se dire oh bah, voilà, moi aussi j'ai ma place, alors qu'en réalité il n'y a pas de distinction pour eux. Chacun vit sa vie sans juger l'autre. On peut être un loup, un chien, n'importe quoi, tout le monde s'en fout.
Et donc les chevreuils savent faire la différence entre un chasseur, entre un bûcheron, entre un promeneur, entre un cueilleur, entre un Geoffrey de l'Orme. Enfin, toute personne qui passe dans les bois.
Oui, en fait, il y a une grande partie qui vient aussi de notre odeur. Notre odeur, elle est très marquante. C'est-à-dire qu'une personne qui a un peu de stress aura une odeur plutôt acide et quelqu'un qui est plutôt heureux aura une odeur plutôt sucrée. Et chez les chevreuils, nos pensées conditionnent nos humeurs et une humeur, c'est égal à une odeur. Donc en fonction de ce qu'on pense chaque jour, de nos envies, ils vont détecter chez nous une odeur différente. Il faut qu'ils aient un panel d'odeurs complet. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on voulait construire un puzzle avec eux, avec une première pièce, notre odeur générale. Et à chaque fois qu'on va aller les voir, qu'on vit avec eux, ils nous découvrent différemment. Et ils vont rajouter une pièce à ce puzzle jusqu'à nous découvrir complètement. Et là, on atteint en fait la confiance absolue quand, quand il a le goût, l'odeur, la vue. Il va avoir le toucher aussi ensuite parce qu'il va venir me relécher, donc il connaît la texture de ma peau. Là, on rentre vraiment dans une confiance absolue, surtout avec des chevreuils qui étalent leurs pattes à moins de 50 cm de moi et qui me regardent en disant « t'as vu, j'ai confiance ».
Une relation intime avec l'animal.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Il n'y a pas que des chevreuils qui habitent dans la forêt. Est-ce que tu as pu créer du lien avec d'autres animaux, les sangliers, les renards, les écureuils?
Oui, il y a eu d'autres animaux, mais beaucoup moins intéressants en termes de qualité d'amitié, parce qu'avec les renards, voilà, ils comprennent pas pourquoi on marche derrière eux, ils comprennent pas pourquoi il y a une relation, ils se désintéressent assez rapidement. S'il y a si on trouve à bouffer, voilà, il va se dire ouais tiens pourquoi pas, mais ce sera pas quelque chose d'important pour lui. Il cherche pas à découvrir l'autre. Les sangliers, bon voilà, ils sont très sympas, mais il y a une hiérarchie. Les cerfs, les biches, c'est pareil, mais par contre les chevreuils sont des animaux plus curieux que les autres. Et ça permet vraiment d'avoir un contact privilégié, très, très différent. Il se pose la question, mais qui est celui qui est en face de moi? Ils sont intelligents pour ça et adaptables. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs de plus en plus de chevreuils qui viennent dans les jardins. Ils n'hésitent pas à venir en lisière de ville. Les nouveaux pavillons qui sont construits en lisière de forêt sont très intéressantes pour les chevreuils parce que il y a des rosiers, il y a des potagers, il y a plein de choses que les chevreuils adorent. Et forcément, ça fait de lui un animal qui est aimé des gens et qui a un grand respect pour les humains, et les humains ont un grand respect pour lui aussi.
Comment on peut parler d'amitié avec un chevreuil?
Parce que quand il commence à y avoir une relation d'âme à âme, on parle d'amitié. Pour moi, tous les chevreuils que j'ai connus étaient des personnes non humaines. Donc c'est pas de l'anthropomorphisme, hein. C'était des chevreuils avec des sentiments de chevreuil. Moi, j'étais humain avec des sentiments d'humain. Mais il était hors de question pour moi de leur donner un sentiment humain. Mais leur amitié, leur amour qu'ils étaient capables de donner tous les jours avec une espèce de, pas de protection, mais de complémentarité, ça devenait comme on peut devenir ami avec son chien ou son chat parce qu'il nous accompagne. C'est pas le chevreuil thérapie, ni la forêt médicament. C'est vraiment le fait d'être seul face à soi-même, mais accompagné par des petits guides, des petits chevreuils qui eux aussi sont dans la découverte de l'autre.
Le bouquin, donc l'histoire fascinante d'un mougli d'aujourd'hui, l'homme chevreuil, 7 ans dans la vie sauvage. Donc pourquoi 7 ans? Tu dis qu'il y a donc eu une année d'immersion où tu étais totalement autonome, mais ça veut dire que pendant 7 ans, tu allais régulièrement dans la forêt pour y passer une journée ou plus?
Oui, en fait, je partais parfois un mois ou deux, je revenais quelques jours seulement.
Et quand tu reviens, tu retournes où?
Alors je retournais dans la maison familiale. Et je prenais un bol de fromage blanc, je prenais... tous les sens étaient exacerbés parce que le fromage blanc avait un goût de champignon, c'était très difficile à digérer, les céréales passaient pas parce qu'ils étaient très sucrés et j'étais plus habitué. Donc c'était 3/4 vie sauvage, et enfin même pas 9/10 vie sauvage et 1/10 vers la civilisation. Et puis à un moment, on se dit ça sert à quoi que je revienne? Autant y rester directement, c'est beaucoup d'énergie perdue. Faire 3 km pour juste aller prendre un bol de fromage blanc, c'est stupide. Peut-être que j'avais plus besoin de m'accrocher à ça, et puis j'ai décidé de partir directement. Mais le livre, voilà, ça s'arrête à la 7e année. Mais j'ai continué pendant 7 ans encore après à continuer à aller les voir, faire des photographies, parce que pendant que j'étais avec eux, je pouvais pas faire de photos, j'avais pas d'appareil photographique. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la version illustrée de l'homme chevreuil, on voit des chevreuils qui sont vraiment mes amis, mais il n'y a pas de photo d'étoile parce qu'elle est morte avant que j'ai l'appareil photo. Six pointes, c'est un six pointes vieux, pas le six pointes jeune que j'ai connu. Donc voilà, mais le regard qui est dans les photographies est le regard unique des chevreuils. C'est-à-dire, on ressent toute l'amitié et tout l'amour qu'ils avaient pour moi. Et c'est justement ce que je voulais transmettre au lecteur.
Toi, tu restais vraiment dans une zone géographiquement délimitée. Hein. Donc, dans tes immersions, tu restais avec tes amis les chevreuils, mais il n'était pas question pour toi de traverser la forêt, d'aller jusque, je sais pas, au sud, pour migrer vers des températures plus élevées en hiver, enfin faire en fait finalement comme les grandes migrations des gnous en Afrique.
Non, c'est vrai que ça aurait été une perte d'énergie et les corridors biologiques, même pour moi, n'existent pas. Le fait de passer sous une autoroute ou sur une autoroute me donnait des angoisses énormes parce qu'il y avait ce bruit, il y avait des odeurs, c'est stressant et j'avais du mal à traverser, ça me donnait des palpitations, je me sentais pas bien. Donc j'imaginais bien ce que les chevreuils pouvaient ressentir et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de corridor biologique pour eux non plus. Et c'est très difficile en fait de traverser d'une forêt à une autre. On se retrouve toujours face à un mur, à une voie ferrée, une autoroute, une ville. Rien n'est fait pour faciliter la migration. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas dépenser son énergie inutilement et de rester sur un territoire bien délimité, qu'on connaisse parfaitement, de manière à ne pas faire d'erreurs sur les plantes que l'on mange. Pas faire comme dans Into the Wild où, voilà, par mes connaissances, il mange quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et moi, bon, voilà, je connais pas toutes les plantes à manger. Mais je connais celle de mon territoire. Et ça me suffit très largement, en fait.
Avant de te demander comment s'est passé le retour parmi la vie des hommes, donc avant de parler de ce retour à la vie civilisée, telle qu'on la connaît, en tout cas, telle que 99,999% des Français la connaissent, toi, dans cette immersion dans la forêt, il y a forcément, pendant ces 7 années, des gens qui t'ont vu. Tu parlais avant de cueilleurs de champignons, peut-être des chasseurs aussi. Personne n'est venu te chercher pour t'observer, pour te capturer, pour savoir qui tu étais. Il n'y a pas des battues qui étaient organisées pour essayer de te retrouver?
Non, parce que déjà dans l'imaginaire collectif, c'est impossible. Et puis surtout, les gens, quand ils me voyaient, je jouais le mec normal qui se promenait. Donc je disais bonjour et puis c'était tout. J'avais une espèce de carapace, en fait, qui me permettait de passer d'un côté et de l'autre. J'avais cette espèce de facilité à jouer les humains civilisés quand il fallait et ensuite retourner dans mon petit monde sauvage à moi de manière à ce qu'il n'y ait pas de... L'apparence était importante en fait et c'est ce qui m'a un petit peu sauvé. En même temps voilà, j'ai lié des relations avec des chasseurs qui m'ont dit mais voilà on te tuera pas tes chevreuils, on va les éviter. Voilà, j'ai eu pas mal de relations avec d'autres humains qui m'ont aidé plus qu'ils m'ont trahi.
Tu dormais où? Tu avais ton endroit, ton spot, où tu changeais de couchage tous les soirs? Comment ça se passe pour dormir dans la forêt?
Alors, mis à part tempête ou météo désastreuse, j'avais pas de point précis. Je dormais là où les chevreuils s'arrêtaient. Et puis, quand j'avais pas de chevreuils autour de moi, bon, bah, voilà, je pouvais me fabriquer un lit à moi. Mais en fait, j'avais un espèce de drap dans lequel en fait je mettais des petites feuilles de hêtre séchées que je cousais et ça à l'époque les gens l'appelaient les plumes de bois, c'était des petits matelas de fortune et ça permettait de s'isoler du sol. On peut utiliser des rameaux de sapin, on peut se fabriquer un hamac hein, avec de la corde, c'est très facile à faire et puis c'est très rapide. Donc, en fonction du temps, de la météo, on arrive plus ou moins à dormir à certains endroits, mais comme je disais, il faut pas faire 8 heures de nuit d'affilée, il faut faire 1 heure de sommeil, on se relève, on va manger, ensuite on se repose, et on dort vraiment que très peu en fait. On dort très peu en forêt.
Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de quitter le monde des bois pour te retrouver dans le monde des hommes?
Il y a eu une industrialisation de la forêt qui s'est faite, et qui a commencé à faire des coupes à blanc, raser des parcelles de forêt dans lesquelles moi je trouvais la nourriture qui était nécessaire à ma survie. Et à partir de ce moment-là, j'étais obligé d'agrandir mon territoire pour trouver de plus en plus de nourriture. Et ça ne me facilitait pas la tâche puisque ça m'obligeait à faire plus de kilomètres, donc dépenser plus d'énergie pour avoir exactement le même gain alimentaire. Et ce n'était pas du tout rentable par rapport à l'énergie gaspillée. Donc j'ai commencé à m'épuiser, je ne savais plus trop comment faire pour me débrouiller. Et en même temps, j'ai rencontré ma compagne dans la forêt qui promenait son chien et à qui j'ai dit qu'il y avait un gros sanglier qui était en haut d'un chemin. Parce que je voulais pas qu'elle traverse mon territoire, j'étais avec un chevreuil et je voulais pas qu'elle nous ennuie. Ça faisait toute la journée qu'on avait eu des touristes qui passaient et que c'était assez désagréable comme ça. Et puis bon bah voilà, je l'ai raccompagné à sa voiture et on s'est pas quitté depuis. Donc là, le retour s'est fait assez rapidement, même si je continuais quand même à aller très très régulièrement en forêt. Ça s'est fait à l'inverse.
Donc c'est l'amour qui t'a sorti des bois.
Oui, c'est vrai. On peut dire que l'amour est un peu sauveur. Ça fait très Walt Disney, on me le reproche souvent, mais c'est la vie qui est comme ça. On partage une idée commune avec Walt Disney, c'est que l'impossible, en fait, n'existe pas. Et que quand on le veut, quand on aime, quand on veut vraiment faire quelque chose, on peut y arriver. La seule unique condition, c'est d'avoir la volonté de le faire et d'avoir confiance en soi.
Merci, merci beaucoup à toi. Le livre s'appelle L'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage. Une histoire de dingue, un récit stupéfiant, humble et tendre. Une immersion dans le monde sauvage. Merci à toi.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. L'émission que vous venez d'entendre s'appelle « Regarde ailleurs ». Ce podcast donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde dans le cadre de mon activité de photographe voyageur. Je pars de l'idée qu'une personne, le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime pouvoir récupérer tous ces témoignages souvent très inspirants. Belle journée à tous !